La dystopie, je vais expliquer dans un instant ce que c'est qu'une dystopie, permet ici d'aborder une question politique et philosophique, l'eugénisme. Alors penchons-nous sur ce que c'est que l'eugénisme. C'est l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner le patrimoine génétique des générations futures d'une population en fonction d'un cadre de sélection prédéfini. Évidemment, c'est la recherche de l'enfant parfait ou du moins indemne de nombreuses affections graves. L'eugénisme classique peut se définir comme un programme d'amélioration biologique de populations humaines et peut donc faire penser à l'amélioration des plantes, l'horticulture ou des animaux, l'élevage domestique. C'est une notion politique, scientifique, donc, mais aussi philosophique. Chez Platon, alors évidemment le terme eugénisme n'existe pas, hein, mais chez Platon, dans la cité idéale, l'élite de la société, ce qu'il appelle les gardiens, doit se reproduire uniquement entre elles, afin que la population garde sa qualité. Donc dès Platon, l'idée centrale de l'eugénisme est présente. Son influence sur la législation s'est traduite principalement dans trois domaines. La mise en place de programmes de stérilisation contrainte, là où la culture dominante le permettait, un durcissement de l'encadrement du mariage et de mesures de restriction ou de promotion de tel type d'immigration. Alors voilà, pour la restriction du mariage, pensez à l'interdiction des enfants métis aux États-Unis, par exemple, et l'interdiction des mariages interraciaux à la fin du 19e siècle, au début du 20e. L'eugénisme est critiqué car il est rapproché du racisme, mais également sur le plan scientifique. Il peut aboutir à une perte de diversité génétique, finalement si tout le monde se ressemble, perturbant artificiellement des millions d'années d'évolution humaine. La première date qui est très importante dans l'eugénisme, avant encore une fois que le mot existe, c'est la publication de l'Origine des espèces de Darwin, qui ouvre une période qui durera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où l'on s'interroge sur la sélection des espèces. Alors, Darwin, c'est intéressant parce que finalement, il est vraiment ancré dans la culture britannique et un peu moins dans la culture française parce que le biologiste français qui était vraiment le pape, et qui c'est Lamarck. Et Lamarck a une façon de concevoir la biologie et l'évolution des espèces un peu différente, notamment parce que pour lui, il y a une théorie de l'évolution chez Lamarck, mais il n'y a pas de sélection naturelle. Il ne la conçoit pas du tout comme Darwin et ça aura des conséquences très importante après, vous allez voir. 1883, le terme eugénisme, donc employé pour la première fois en anglais par un scientifique britannique, Francis Galton, pour lui, les classes sociales possèdent des qualités propres, transmises héréditairement. Il faut éviter le mélange des sangs qui ne peut conduire qu'à la disparition des caractères les plus hauts de la race humaine. Donc on voit assez nettement que l'eugénisme naît sur un racisme, hein. Je vais vous lire d'ailleurs un extrait de ce livre que je vous ai mis en photo. Alors, pour Platon, la référence, la grande référence où il parle des gardiens, c'est la République. Et ce philosophe de la biologie, André Pichot, écrit dans ce livre, dont je vous conseille la lecture, c'est vraiment fascinant, qui s'appelle « La société pure » de Darwin et Hitler. Et il sépare ce qu'il appelle l'eugénisme positif et l'eugénisme négatif. Donc, il dit que le mot eugénisme a été inventé par Galton en 83. Étymologiquement, l'eugénisme est la science des bonnes naissances, une science qui se prétend fondée sur le darwinisme et la génétique, ou plus exactement, qui prétend en être l'application à la société humaine. On distingue en général deux formes d'eugénisme, le négatif et le positif. L'eugénisme négatif veut empêcher la multiplication des individus qui sont supposés inférieurs, d'un point de vue biologique, psychologique ou intellectuel. Il postule que cette infériorité est héréditaire et prétend interdire, plus rarement déconseillé, aux 10 individus d'avoir des enfants. Les méthodes employées sont plus ou moins brutales et coercitives. Interdiction du mariage, enfermement, mais aussi et surtout stérilisation. C'est essentiellement dans ce cas qu'on parle d'eugénisme. La version la plus dure est l'élimination physique pure et simple des individus inférieurs. Elle ne fut guère pratiquée de manière systématique que dans l'Allemagne nazie. L'eugénisme positif veut, lui, améliorer la société en encourageant la reproduction des individus supérieurs, voire en l'organisant, soit dans des haras humains où des reproducteurs choisis sont priés de procréer, soit grâce à des banques de sperme de grands hommes. On pourrait maintenant envisager des banques d'ovules. Ces deux formes d'eugénisme se distinguent du darwinisme social, autre application de l'évolutionnisme à la société, en ce qu'elles se fondent sur une plus ou moins forte intervention de l'État, via des législations plus ou moins contraignantes. Le darwinisme social, lui, est au contraire une doctrine du laisser-faire où toute intervention étatique est refusée. C'est un libéralisme extrême qui refuse jusqu'aux lois de protection sociale afin de permettre à la sélection de jouer dans la société comme elle est censée jouer dans la nature. Autrement dit, hein, ça veut dire qu'on ne soigne pas les malades. Le Covid, on laisse les gens mourir. Comme ça, les gens les plus faibles meurent et c'est la nature et c'est comme ça. Historiquement, cette forme libérale a été la première conçue dès la publication de l'Origine des espèces, tandis que l'eugénisme a été théorisé un peu plus tard, dans les années 1880. Darwinisme social, eugénisme négatif et eugénisme positif sont des doctrines apparentées qui interfèrent entre elles. Elles ont une version pessimiste quand elles prétendent lutter contre la dégénérescence induite par la disparition de la sélection naturelle dans la société et une version optimiste quand elles prétendent améliorer l'espèce humaine et réaliser le surhomme sur le modèle de l'amélioration des races animales domestiques. Donc voilà pour André Pichot et l'eugénisme positif et négatif. Quelques autres dates marquantes, vous allez voir, on va rejoindre Gattaca. Donc en 1906, l'eugénisme se développe aux États-Unis avec Kellogg, qui fournit des fonds pour aider à la création de la Race Betterment Foundation, la fondation d'amélioration de la race. Aux États-Unis, la stérilisation contrainte est forcée. Plus de 64 000 personnes sont ainsi stérilisées entre 1907 et 1963, des criminels, des malades, parfois des alcooliques. À partir des années 10, l'eugénisme n'est plus seulement une idéologie, mais aussi une pratique institutionnelle avec des lois eugénistes. Churchill, en 1911, propose de déporter les 120 000 handicapés inadaptés mentaux aux colonies. Et en 1933, le régime nazi adopte une loi visant à éradiquer les maladies héréditaires par l'euthanasie d'enfants handicapés. De 1934 à 1976, en Suède, il y a un programme eugéniste. Près de 63 000 personnes encore sont stérilisées pendant 40 ans. En 1953, c'est le début de la biologie moléculaire qui permettra la création d'OGM, donc qui permet de modifier des organismes par transgénèse, c'est-à-dire l'insertion dans le génome d'un ou plusieurs nouveaux gènes, ce qui permet de créer des bactéries qui permettent de traiter les maladies, l'insuline pour le diabète en 82, et de faire des plantes plus résistantes aux maladies. En 96, c'est-à-dire un an avant Bienvenue à Gattaca, le premier mammifère est cloné, c'est Dolly, la petite brebis que vous voyez à droite. Donc, il y a une réflexion bioéthique très importante aujourd'hui, notamment à quel moment on peut tuer ou pas un fœtus, à partir de quel problème génétique ou pas, est-ce qu'il faut ou pas. Donc ça, c'est des réflexions qui sont menées par les médecins avec les parents. De nos jours, le mouvement eugéniste aux États-Unis a repris autour de différentes figures, souvent fortunées et proches des idées libertariennes, comme par exemple Jeffrey Epstein ou Elon Musk, qui promeuvent une politique nataliste eugéniste pour bâtir les nouvelles classes dominantes. Une nouvelle manière d'aimer Elon Musk, j'en suis sûr pour vous, comme si vous en avez besoin.